il se trouve que quelques années en arrière, exactement en 2003, on a créé ici à Toulouse avec quelques autres personnes, un petit groupe de voilà plutôt au sein de l'université, un groupe qui s'appelait Race et Genre, qui n'existe plus aujourd'hui. Bon, voilà, les membres sont un peu dispersés. Donc Race et Genre, avec l'idée de réfléchir vraiment à cette articulation entre le racisme et le sexisme. Une première partie de nos réflexions a beaucoup tourné autour de ce qu'on appelle le black feminism, donc les féministes noires africaines-américaines qui ont mis en avant le fait que le féminisme majoritaire est blanc, donc ne prenait pas en compte leur spécificité, elles, de femmes noires. Voilà, donc on a beaucoup réfléchi à ces questions-là. Et il se trouve qu'une des membres du groupe Race et Genre, Judith Ezekiel, est américaine. Et donc voilà, elle nous a vraiment beaucoup alimenté à partir donc de ses travaux états-uniens. On a découvert donc le travail d'une chercheuse américaine féministe qui s'appelle Peggy McIntosh et qui a travaillé donc sur ce qu'elle appelle les privilèges blancs. Et quand on a découvert son article, ça a été vraiment, pour moi en tout cas, en particulier, une révélation au niveau individuel, hein, à la fois scientifique et théorique, mais aussi vraiment au niveau personnel et individuel. Et ce qui m'intéressait particulièrement dans cette approche, c'était le fait qu'on ne regardait plus les victimes, mais on regardait du côté des dominants.
Alors, ce qu'il faut dire, peut-être, dans tout ce qui est lutte antiraciste aux États-Unis, puis de manière générale dans la sociologie aux États-Unis, c'est qu'il y a ce classement hein, des gens par race, et même de manière officielle, hein, l'État classe aussi les gens comme ça. Alors qu'en France, ce n'est pas du tout le cas. La République... Donc se présente comme égalitaire par rapport à tous et donc se cache des fois derrière l'universalisme pour traiter les gens, non ?
Oui, absolument. Voilà, et ça a été vraiment le point de départ et l'hypothèse de travail première hein, sur notre réflexion. Il ne s'agit pas de dire que ça se passe en France comme ça se passe aux États-Unis. Évidemment, on a des histoires différentes, des contextes sociopolitiques complètement différents. Et effectivement, hein, il n'y a pas une catégorisation à partir de la race en France comme elle existe aux États-Unis. Mais en même temps, voilà, l'idée première, c'était de dire que l'universel et l'universalisme républicain, voire républicaniste, comme on le voit se développer ces dernières années, voilà, sous prétexte de considérer tout le monde comme des égaux et des égales, laisse à la marge toute une catégorie de minorités. Ça a été d'abord les femmes, hein, l'universel républicain a laissé de côté quand même les femmes pendant pas mal d'années, hein. Et donc sur ce même mode-là, met à l'écart un certain nombre de minorités ethniques ou raciales dans notre société. Hein. Et c'est vrai que c'est à partir de cette hypothèse première que moi, en tout cas, j'ai envie de réfléchir en disant cet universel-là, il ne s'applique pas concrètement et l'égalité réelle, elle n'existe pas. Donc... plutôt que de continuer à faire semblant que nous sommes tous égaux et égales dans cette société française, allons voir comment ça fonctionne de plus près et concrètement.
Alors justement, concrètement, pour essayer de travailler là-dessus sur le terrain, vous avez organisé des ateliers de conscientisation. Est-ce que vous pouvez nous en parler de la démarche et aussi de comment ça se passe ?
Oui. Alors, la démarche en elle-même. Toujours à partir hein, de ce travail pionnier de Peggy McIntosh, qui, elle, en réfléchissant donc à sa propre position de femme blanche aux États-Unis, a donc défini un certain nombre de privilèges associés donc à sa couleur de peau et à sa position sociale. Et donc nous, à partir de ça, on a essayé de procéder de la même manière et de décliner un certain nombre d'énoncés qui correspondent à des privilèges. Alors, privilèges au sens où ce sont des choses qui sont la plupart du temps complètement inconscientes pour les personnes du groupe majoritaire, donc du groupe entre guillemets blanc. Et comme l'explique Peggy McIntosh, on socialise les personnes de toute façon à conscience silencieusement oublié qu'elle possède ces privilèges-là, puisque les caractéristiques du groupe dominant, du groupe majoritaire, vont devenir la norme à partir de laquelle voilà, on va considérer tout un tas de choses. Et donc, c'est vraiment l'idée de réfléchir à des privilèges de la vie quotidienne, voilà, de manière vraiment très très simple pour chacun et chacune d'entre nous. Donc on a décliné tout un tas de privilèges, et alors je sais pas, je peux vous en citer. Ça peut être par exemple dans les commerces, si je suis surveillée ou contrôlée par un agent de la sécurité, je suis sûre que ce n'est pas en raison de ma race. Voilà, un privilège de la vie quotidienne. Une personne blanche, si elle est contrôlée donc dans un espace, en particulier donc les commerces, hein, puisque c'est vraiment des choses que tout le monde a vécu, on est certain que ça peut être pour un tas d'autres raisons, mais en tout cas pas en raison de sa race. Un deuxième que j'aime particulièrement, et j'en ai parlé à la conférence à Lille, c'est je peux être premier, réussir socialement ou scolairement, sans être présenté comme un exemple de modèle d'intégration. Ça peut être, par exemple, quand je recherche un logement, que j'ai l'argent et les garanties nécessaires, je suis sûre de pouvoir louer ou acheter dans n'importe quel quartier. Voilà, hein, des petits privilèges comme ça, enfin, voire qui peuvent devenir importants, par exemple, si on recherche un logement ou dans le cadre de l'emploi, qui, bien sûr, quand on les relie à des inégalités plus globales et plus systémiques, bien entendu, elles viennent éclairer tout le système de discrimination raciale, etc., qui a cours à l'heure actuelle. Hein. Voilà, donc le principe, c'est ça. L'idée, c'est qu'on regroupe une vingtaine de personnes maximum. Moi, je l'ai beaucoup expérimenté, ces ateliers, plutôt dans un cadre donc universitaire, avec des groupes d'étudiants ou d'étudiantes, et dans des cours alternatifs, des choses comme ça, hein, pendant les périodes de grève, par exemple, à l'université. Donc, il y a toujours dans une démarche, bien entendu, militante et de conscientisation. Ce que je peux en dire sur la manière dont ça se passe. Premièrement, enfin, il y a quelque chose qui ressort de manière évidente, et ça c'est encore une fois, me semble-t-il, reproduit à Lille lors du débat et des discussions, c'est que il y a une tendance à avoir de la difficulté à penser les privilèges. C'est-à-dire que même si on organise un atelier de conscientisation ou une conférence sur le sujet en disant la question c'est de réfléchir aux privilèges des blancs, des hommes, etc., hein, parce qu'on peut l'élargir à d'autres formes d'oppression, y a une résistance, mais qui s'installe de manière très inconsciente, etc., hein, indépendamment de la bonne volonté des personnes, et du coup les discussions et le dévient sur à nouveau les victimes du racisme et pas sur les personnes dominantes. Ça, vraiment, c'est la grosse tendance. Donc, voilà, une grosse résistance. Mais, bien évidemment, c'est lié avec le fait ce qu'explique Peggy McIntosh et les autres chercheurs sur ces questions de la blanchité aux États-Unis, hein, c'est que vraiment, comme les personnes sont éduquées, formatées, j'ai envie de dire, à ne pas penser à ces privilèges et au fait qu'ils et elles sont des personnes dominantes dans la société, que ce sont elles qui produisent les normes dominantes, etc., que c'est très difficile à penser. Donc, on rebascule plutôt sur les victimes que sur les dominants. Deuxième élément qui apparaît de manière assez forte, et ça, ça a pas mal été théorisé, c'est ce qu'on appelle l'aveuglement à la race ou à la couleur. On occulte cette dimension-là, et on va avoir tendance à parler d'autre chose, de la nationalité, du lieu d'habitation, des choses comme ça. Et l'autre grosse tendance qui est très marquée, c'est le sentiment de culpabilité, puisque évidemment il y a quelque chose de d'assez complexe, hein, dans le fait de se définir comme une personne blanche et donc plutôt dominante. Évidemment, c'est pas simple, hein, Et donc, du coup, ce sentiment de culpabilité, alors que c'est pas du tout hein, l'objectif, bien entendu, hein, quand moi je parle de ces questions, vraiment, c'est l'idée de réfléchir, parce que je fais le constat que, de toute façon, les luttes antiracistes, vraiment, en France, ben, c'est un échec, ça ne fonctionne pas, à cause de ce fameux universalisme, voilà, et cet aveuglement à la race et à la couleur, font que voilà, on ne sait pas lutter de manière efficace contre le racisme. Et donc c'est pas du tout d'installer de la culpabilité chez les personnes socialement blanches, on va dire, hein, parce que ça, on est bien d'accord que cette idée de blanchité, c'est une construction sociale et c'est pas uniquement, on n'est pas dans du biologique, hein. Bien entendu, il faut aller au-delà de cette culpabilité, et dans les ateliers, on essaye de le travailler pour que les personnes ne repartent pas avec ce sentiment-là. Et puis l'autre sentiment qui est assez fort, ben, c'est le sentiment d'impuissance, parce que une fois qu'on a conscientisé le fait, éventuellement, donc qu'on avait des privilèges, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait, quoi, de manière pratico-pratique, dans les luttes, etc. Et là, c'est vrai que c'est une grande question. Moi, j'ai pas les réponses. Moi, j'ai envie de réfléchir déjà à la prise de conscience. Il me semble que c'est un premier pas. Et puis ensuite, ben, réfléchissons ensemble, comme ça s'est passé, voilà, à Lille. Hein. Je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment envie de travailler autour de ces questions pour construire des luttes qui deviennent un peu plus efficaces de ce point de vue.
Parler de résistance, de gens qui ne supportent pas l'idée de se considérer des personnes blanches, hein, je parle, qui ont du mal à se considérer comme privilégiés. Bon, privilège, c'est un terme assez fort qui renvoie à une forme de noblesse. Et peut-être, je sais pas, pour un blanc de classe sociale inférieure, accepter le fait d'être privilégié, c'est peut-être un peu difficile à accepter, non ?
Oui, complètement. Et je l'entends, hein. Bien entendu, les personnes qui ont des origines populaires, ouvrières, etc., se dire tout d'un coup « oui, je suis privilégiée », c'est très très difficile. Mais c'est pour ça que, moi en même temps, je crois vraiment aux vertus de l'échange et des discussions qu'il peut y avoir autour de ces ateliers ou de temps de réflexion en commun comme ça. En disant, bien entendu, il ne s'agit pas de nier le fait que l'appartenance à des milieux ouvriers ou populaires ne nous met pas dans des positions sociales minoritaires, infériorisées, stigmatisées, etc. Bien entendu, hein, je suis la première à le reconnaître et à défendre ce point de vue, bien sûr. Mais toute la complexité, c'est pour ça que moi je me situe vraiment là à un niveau à la fois théorique, mais en même temps j'ai envie que ça puisse se décliner très concrètement dans les luttes et dans les mouvements sociaux, ce qu'on appelle l'articulation des oppressions ou des dominations, qui là englobe le sexe, la race et la classe. Et évidemment, dès qu'on essaye d'articuler les trois ensemble, on pourrait dire que une femme noire cadre face à un homme pauvre blanc, il faut réfléchir à où se situent les oppressions, à quel moment, dans quelle situation, etc. Et il ne s'agit pas de dire qu'il y a des privilégiés plus et des opprimés plus. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais que tout ça est très complexe et qu'en fonction des situations, des interactions, il va y avoir une forme d'oppression qui va être plus importante ou des formes de privilèges qui vont se manifester.
Alors vous en parliez un petit peu en parlant d'être socialement blanc. Bon, cette dichotomie blanc-non-blanc, elle a aussi peut-être ses limites. Il y a des gens qui sont métis, il y a des gens qui sont plus ou moins proches de leur culture d'origine. Comment vous voyez ça, cette séparation blanc-non-blanc ?
Oui, alors c'est vrai que c'est une des limites hein, de la catégorisation, puisqu'elle a tendance effectivement à figer comme ça des identités et à mettre les personnes dans des cases, alors que voilà, alors qu'il faut arriver à penser des choses de manière beaucoup plus fluide. Hein, je suis d'accord avec vous. Hein, de toute façon, il y a des personnes entre guillemets non blanches qui passent, j'ai envie de dire, dans certaines situations, dans certains contextes. Cette idée du blanc, en tout cas telle que c'est pensée par les théoriciens aux États-Unis, c'est que ça renvoie donc à des positions sociales et économiques, ça a à voir avec la distribution des richesses et du pouvoir. Alors eux parlent d'une ligne de couleur, donc effectivement avec cette dichotomie blanc-non-blanc, parce que ça renvoie aussi à voilà à quelque chose qui a à voir avec le capitalisme, etc. Hein, cette idée de blanchité. Mais je suis d'accord avec vous. Moi, c'est vrai que pour l'instant, je l'ai pas suffisamment pensé. En France, on est vraiment très très en retard sur ces questions. Enfin, même pas en retard. Je veux dire, il y a rien. Il n'y a quasiment aucun travaux. Tous les travaux existants viennent du monde anglo-saxon, donc plutôt liés à leur contexte voilà spécifique. Et tout ce travail-là, il y a à faire, hein, sur effectivement, hein, quand on pense à la question des personnes originaires des dom-tom, je suis d'accord avec vous, hein, ça vient encore plus complexifier les choses. Mais j'ai pas toutes les réponses. Voilà, mais je suis en réflexion et je trouve qu'on devrait être un peu plus nombreux parce que je me sens un peu toute seule. Enfin, un peu, voilà, on est un peu isolés, hein, les quelques personnes qui réfléchissent à ces questions. En tout cas, en France, hein, pour arriver à penser vraiment toutes ces choses dans toute leur complexité.
Ouais, dans la sociologie française, on réfléchit, on travaille plus en termes de classe sociale, c'est plutôt ça la tendance ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même un héritage marxiste dans la sociologie, en particulier hein, dans les sciences sociales en France, qui fait que voilà, on aborde plutôt la question des classes sociales comme étant le rapport social de domination premier. Et du coup, c'est vrai que c'est plus difficile, même si bien entendu, hein, il y a quelques chercheurs et chercheuses qui essayent de penser les choses autrement. Mais cette approche hein, que moi je définis comme étant intersectionnelle en référence encore une fois à une chercheuse africaine-américaine, les intersections du sexe, de la race et de la classe, c'est encore un champ très très nouveau en France. Hein. C'est vraiment une poignée de personnes qui réfléchissent à ces questions, hein. Même si je pense que de plus en plus on se rend compte que c'est indispensable.